Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
On n'a pas la prétention, ni elle, ni moi, d'être une reine ou encore un roi d'un royaume. Mais par contre, sur l'émission, c'est nous autres qui trônons.
Oui, et nous régnons.
Exactement.
Sur les sujets.
Hey, vous ne viendrez pas nous prendre nos places. Cathy Morin, comment ça va?
Bien, ça va bien, mais si vous voulez prendre nos places, moi, j'accepte les défis à l'épée.
Ah ouais, avec le fleuret puis toute la patente, là?
Oui, tout ça. OK. Tout l'équipement, le code de maille, l'ensemble de chevaliers. Là, c'est assez pesant, quand
le
même.
Le gros outfit, là.
Bien, tant qu'à faire. Hein?
Comment ça va, Cathy Morin?
Ça va très bien, toi-même, Simon?
Ça va bien. T'as passé une belle semaine?
Oui, belle semaine. Puis on commence à avoir du beau temps un peu. Ça fait du bien. Ça se réchauffe tranquillement. Ça fait du bien aussi au moral, hein? Fait que c'est comme proportionnel au sourire, ça.
Ça commence à jouer sur le sens olfactif.
Oui.
Parce que ça commence à sentir le barbecue.
Oui. Je pensais que tu allais parler d'allergies.
Mais en contrepartie, c'est là que je m'en allais. Ça commence à sentir les allergies aussi pour... le petit gars que vous entendez, qui est bien allergique au pollen des arbres et puis aux graminées puis les autres affaires comme ça, ça fait que...
Fait que toi, tu sens pas vraiment le barbecue, mais tu vois plus la fumée flotter.
Oui, quand même. C'est juste parce que des fois, t'as la petite goutte au nez un petit peu, là.
Oui, c'est sûr. T'as un peu les yeux qui piquent.
Un petit peu, pas trop, ça, mais quand même. L'antihistaminique, là, t'es un bon ami à ce temps-ci de l'année.
Ah, j'imagine. Puis t'es pas tout seul dans ta gang. Rassure-toi comme ça, il y a quelques personnes. Bien, moi, ça dépend des saisons, je te dirais, mais t'es pas tout seul, là.
Bien, j'imagine, parce que si je vais à la pharmacie puis que je vois des rangées complètes d'antihistaminiques, ça doit pas juste être pour moi, tu sais.
Bien, si oui, c'est vraiment gentil, en tout cas.
En tout cas, si c'est le cas, c'est vraiment fin. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. On va parler de plusieurs choses cette semaine. Elle peut contenir des infos, entre autres choses de monarchie. Et c'est pour ça un peu que j'annonçais les couleurs tantôt, là.
Oui, tout à fait. Donc, on sort tambour et trompette. Parce qu'en fait, j'ai deux bonnes raisons de vous parler de monarchie. Moi, je suis un peu mitigée avec la monarchie, comme je suis fascinée par ça. Tout le monde veut être une princesse, évidemment. Mais en même temps, je trouve que ça coûte cher pour pas grand-chose. Fait que, tu sais, je suis un peu prise dans tout ça. Fait que oui, je vais vous parler de monarchie parce que c'est à la mi-mai la fête de la reine, donc un petit historique là-dessus.
Okay.
Et on aura de la grande visite aussi à Ottawa le 27 mai, 26 et 27 mai prochain. Le roi Charles III lui-même viendra prononcer un discours au Parlement. Fait que je voulais un peu vous parler de tout ça.
OK, c'est intéressant. Autre sujet, les potagers, hein, c'est ainsi de l'année, ça commence.
Oui, bien, ça commence aussi parce que souvent, la longue fin de semaine de la fête de la reine, on s'en souvient plus souvent parce que c'est une longue fin de semaine que d'autres choses, on s'entend.
Mm-hmm.
C'est le coup d'envoi pour faire les jardins, les potagers, dépendamment des secteurs où on est. Fait qu'on va peut-être se donner des petits trucs. Et je voulais terminer aussi de vous parler des applications qui nous permettent d'économiser. La vie coûte cher, la vie va vite, puis on n'a pas le temps de regarder toutes les circulaires. On aimerait bien ça avoir ce temps-là, mais on l'a pas. Donc, j'ai quelques applications pour vous là, qui vont pouvoir vous aider à diriger vos choix, à économiser, puis des fois faire aussi des meilleurs choix santé.
Il y a comme un fil conducteur. Tu vas parler de potager, puis tu vas parler de gaspillage alimentaire. Ça fait qu'il y a comme une thématique. C'est le fun, j'aime ça.
Oui, tout est dans tout. Des fois,
tout est dans tout.
Voilà.
Exactement. Voilà. Vous savez qu'on a élu récemment un nouveau pape?
Oui. Il y avait eu de la fumée, cette fois pas de barbecue, mais pour...
Ben, il y a eu de la fumée. Oui. J'espère que c'était pas pour un barbecue. la grande question qui vous brûle peut-être les lèvres, combien ça gagne un pape? Je vais répondre à la question tantôt. Vous allez peut-être être surpris.
Je ne m'étais même pas posé la question. Non, je me suis dit, ça doit être un don de soi. Être un pape, tu sais, je veux dire, tu es quand même logé et possiblement nourri. Là.
On va répondre à la question tantôt. depuis quelques temps aux États-Unis, vous savez que les contrôles frontaliers se sont un petit peu resserrés.
Oui, c'est plus compliqué, effectivement.
Et sont un petit peu plus, si vous me prêtez l'expression, piqués ou un petit peu plus pointilleux sur les contrôles de sécurité à la douane, aux frontières, évidemment. Alors, comment protéger sa vie privée puis éviter d'étaler toutes ses affaires personnelles devant les douaniers puis d'être peut-être refoulé ou même, allez savoir, être interrogé? Il y a des gens qui commencent à se poser des questions, là.
Mais je pense que le meilleur secret, c'est peut-être pas y aller, là. Mais en même temps, si t'as pas le choix...
Ben, si t'as pas le choix, c'est
ça. T'as pas le choix.
Exactement. Je vais vous parler du véhicule routier le plus improbable de l'histoire. Vous allez voir, c'est...
Le Cybertruck, c'est ça? Non? Non?
Ça, c'est assez... Ça, dans ma tête, c'était assez improbable, mais il y a pire que ça.
Vraiment?
Ah, vraiment.
Intéressant.
Vraiment.
De voir.
Et on va terminer avec un quiz sur des peintres célèbres.
Ah, oh, mon Dieu!
Et certains méconnus. Je pense que tu as de bonnes connaissances générales, toi.
Oui, générales, mais là, en peinture, tu voulais vraiment que je fasse pire que ton résultat de la semaine passée?
Bien, tu sais-tu quoi? J'ai dit, je vais poser des questions que même moi, je serais quand même pas pire pour répondre.
OK.
Ça fait que j'ai pas voulu te lancer dans un bain d'acide là, pour te faire fondre devant tout le monde.
C'est apprécié. C'est gentil. Puis écoute, je vais faire de mon mieux. Puis je vais essayer de. Mais écoute, on va mettre la barre basse tout de suite. OK? On va commencer avec les attentes plus basses.
OK. Allons-y avec ton premier sujet de l'émission. Là, on parle.
Oui, on parle. Et on va parler de royauté, en fait, parce que, bon, j'en ai parlé un peu d'entrée de jeu. La mi-mai, on a la grande fin de semaine du mois de mai qui est là, qui est la fête de la reine. Est-ce que tu sais quelle reine on fête précisément à ce moment-là?
Je pense que c'est la reine Victoria, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement. C'est bien la reine Victoria. Puis au départ, c'était vraiment la fête de la reine Victoria. C'était vraiment son anniversaire le 24 mai. Ça tombe bien, c'est l'été. C'est une date qui adonne à tout le monde. On peut faire des belles parades. Donc, ça a été célébré et Victoria a été quand même reine assez longtemps, une soixantaine d'années. Donc, quand elle est décédée en 1901, fait quand même un bout aussi. On s'entend, la monarchie, ça date pas d'hier. On a continué aussi au Canada de poursuivre et de fêter la fête de la reine Victoria, mais on a décidé de changer ce nom pour juste la fête de la reine. Dans l'histoire, on n'a quand même pas changé si souvent que ça dans les dernières années et décennies, mais on pourrait changer plus souvent, fait que c'est un petit peu moins dérangeant.
Exact.
Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on voulait honorer la reine. Et là, pourquoi on a choisi le mois de mai puis pourquoi c'est resté là? Parce que, bon, il y a des souverains qui sont nés, oui, au mois de mai, mais au mois de novembre, c'est un peu froid. C'est un peu plate. Avoir une longue fin de... C'est correct, là, d'avoir une longue fin de semaine, mais au mois de novembre, c'est un petit peu moins de fun qu'au mois de mai.
C'est moins glamour, un peu.
Oui, fait que ça fait partie, effectivement, des critères qui ont fait qu'on a laissé cette longue fin de semaine-là. Et, en fait, c'est pas fêté partout non plus. Pareil, la fête de la reine au Québec, ça s'appelle la fête de la Journée nationale des patriotes. On souligne ce qui s'est passé, les combats pour la liberté, les droits des francophones, qui s'est passé dans les années 37-38, le 1837-1838, là, il y a quelques années. Donc, c'est un peu pour ça. La fête de la reine, là, c'est un peu d'historique, ça remonte là et on continue de fêter l'anniversaire. Charles III, son anniversaire, lui, c'est au mois de novembre. Fait qu'on est bien content de pouvoir...
On n'est pas pire.
Ouais, c'est gris. Hein? C'est un beau mois, mais c'est gris. Ouais. L'autre raison pour laquelle aussi je voulais te parler de monarchie, c'est qu'on va avoir de la grande visite et il risque d'avoir du trafic en ville 26 et 27 mai prochain parce que le roi Charles va être là. Il va venir prononcer un discours, en fait, devant le Parlement, un discours devant nos élus. Et c'est une première en plus de 50 ans quand même. La dernière fois, c'est sa mère qui avait fait ça. Fait qu'on peut penser que c'est un peu un moment historique. Mais là, en même temps, qu'est-ce que ça mange de la monarchie en hiver, Simon?
Ben, moi, personnellement, j'ai pas un très, très grand attachement à la monarchie. Je suis pas contre l'idée, là. Je veux dire, vous avez le droit d'avoir des rois et des reines, mais en même temps, à quoi ça sert? Je sais pas trop.
Bien, c'est ça. Puis c'est un peu un message symbolique qu'on veut lancer. Puis c'est pour ça que le roi va venir faire ce discours-là au Parlement. Bon, pour un peu signifier l'attachement du Canada à la monarchie. Nous sommes une colonie indépendante. Ça lance aussi un message aux États-Unis parce que, bon, il y a un certain président qui a des certaines visées. Puis on peut comprendre, le Canada est quand même le plus beau pays du monde. Moi aussi, je voudrais l'annexer si j'étais pas dans ce pays. Hein? On comprend, M. Trump est d'aimer le Canada.
Ouais. Je sais pas s'il aime le pays ou il aime les ressources qu'il y a dans le pays, puis le potentiel. Ah, il aime tout, hein?
Oui, exact.
Ben, il vient pas se promener souvent, par exemple, pour un gars qui aime la place.
Non, c'est sûr, mais ça a l'air qu'il est vraiment, vraiment un très grand fan du homard de la Gaspésie.
Ah, ça se peut.
C'est ce qu'on dit. Il mange ça après ses tours de golf.
Ben,
là. Mais bref, bon, donc normalement, là, c'est la reine, c'est la gouverneure générale qui fait ce discours-là, ouais. Mais là, on a vraiment voulu lancer un message. Donc, ce sera une première, puis ce sera un moment historique, et qui sait, peut-être qu'on pourra suivre ça là, sur les différents médias, mais ça risque d'être intéressant. Moi, c'est comme encore une fois, je suis prise. Je trouve ça fascinant de voir le roi, mais ça va nous coûter cher.
Ah, j'ai un petit toit. C'est complet?
Ben oui, voilà, c'est okay, tout. On en s'est parlé, là.
Ben ouais, mais c'est gentil. la grande question, pas celle entre toutes les questions. Combien ça gagne un pape?
Ben écoute, j'y souhaite au moins le salaire minimum.
On a assisté récemment à quelque chose d'assez rarissime dans une ville, l'élection d'un nouveau pape. Mm-hmm. Évidemment, ça n'arrive pas souvent. Écoutez, en un demi-siècle, depuis le milieu des années 70, on a assisté à l'élection de seulement 5 papes.
Oh, quand même!
Hein? Léon XIV, évidemment, qui vient de l'être. Il y avait le pape François. Il a été là de 2013 jusqu'à son décès en 2025, donc il n'y a pas tellement longtemps. Benoît XVI, 2005 à 2013. Saint Jean-Paul II, parce qu'il est maintenant un saint.
Oui, et tu vois, ça, c'est le premier pape que j'ai connu, moi. J'en ai pas connu d'autres avant.
Lui, il a été là de 78 à 2005. Et puis, il y avait le bienheureux Jean-Paul Ier. Lui, il a siégé un tout petit mois.
Ah, oh, mon doux! Juste pour dire.
En 1978. Mais depuis, là, ces 5 papes-là, c'est ça. Là. Mais puis, juste pour vous dire en comparaison, là, à quel point il s'en passe des affaires en 50 ans, on a quand même vu une dizaine de premiers ministres canadiens pendant qu'il y a eu juste 5 papes. Et puis, à peu près le même nombre de présidents américains. Je pense que c'est 9 présidents américains qu'il y a
quand
eu
même,
tout
hein?
ce temps-là. Ouais. Et ce qu'on ignore, Et savais-tu que le pape, c'est pas juste le chef de l'Église catholique, c'est aussi un chef d'État?
Ah, ben, ah, le Vatican est un État soi-même, c'est vrai.
Exactement. On ignore que non seulement il est le chef de l'Église catholique, mais c'est également le chef d'État et de gouvernement du Vatican.
Oh, on n'entend pas souvent ça.
Et c'est le plus petit pays indépendant du monde, donc c'est un pays, c'est bel et bien lui le chef d'État. C'est le moins peuplé parce qu'il y a à peine plus de 600 habitants. Et là, on se dit, avec toutes ces fonctions-là, ma foi du ciel, de bien gagner un salaire dans les six chiffres? Eh bien non.
Non.
Le pape ne gagne rien. Alors, Léon XIV n'aura pas un token pour le job très astreignant et très contraignant de pape.
Oui, mais en même temps, il a quand même choisi cette voie. Puis pour quand on arrive pape, on a déjà fait, je pense, le plus gros des sacrifices, là.
Oui.
Mais c'est quand même surprenant, mais en même temps, je peux comprendre. Parce que, bon, c'est logé à l'église, tu sais, les dépenses sont là, les déplacements, c'est comme payé par son travail, là.
C'est ce que j'allais dire. Pleurez quand même pas sur le sort du pape, parce que toutes ces dépenses vont être payées. Elles sont couvertes par le Vatican. Les frais de subsistance, nourriture, logement et tout ça. Tout ce qui est afférent, par exemple, à son hygiène personnelle. Il y a besoin d'avoir un petit déodorant ou quoi que ce soit du genre.
Oui, t'apprécies. Il
demande, je lève la main, ah, j'ai besoin de ça. Alors, ils partent, ils vont en chercher une brosse. Tu sais, c'est tout le kit. Même ses déplacements, il y a un chauffeur, il y a une voiture. Et on ne sait pas exactement combien ça coûte tout ça, là. Mais ce que, non.
C'est surprenant, ils ne l'ont pas chiffré.
Non, c'est parce que c'est inscrit dans le budget du Vatican. Puis le budget du Vatican est à peu près d'€1 milliard annuellement.
Pour combien de personnes? T'as dit tantôt, c'est vraiment pas beaucoup.
600 quelques personnes. Fait que le budget...
600?
Ouais, le budget d'opération est d'environ 1 milliard d'euros annuellement, donc approximativement 1 milliard et demi de dollars canadiens. Et le budget de fonctionnement ou d'opération pour la... comment je dirais ça? Les fonctions papales, appelons ça comme ça, c'est inclus là-dedans. Alors, grosso modo. Mais lui, il gagne rien. Là. Pas une scène. Il a le droit au cadeau. Le pape François avait reçu une Lamborghini en 2017. Il l'a pas gardé.
Ben, je suis flabbergastée.
Il l'a revendu pour au profit d'organisations caritatives.
Ah, c'est gentil quand même.
Mais c'est ça. Puis il ne paye pas d'impôts, naturellement.
Oui, non, ben, ça fait du sens, tout à fait.
Alors, si jamais vous pensiez un jour ou l'autre poser votre candidature pour devenir pape, ben, sachez que ce n'est pas payant-payant.
Non, ce n'est pas payant, mais en même temps, tout le monde te gère.
Ben, c'est ça.
C'est comme c'est possible.
Tu n'as pas grand-chose à te casser la tête. Hein? Tu vois les fins de mois, puis ça ne te tracasse pas trop.
Tu n'as pas besoin de payer ton hydro. C'est le fun.
Exactement. Dans un tout petit instant, on va parler de quoi?
On parlera de jardinage, parce que là, on a parlé de royauté, mais maintenant, on se met les mains dans la terre.
OK, parfait. On reste là.
Peut contenir des infos.
On aura beau avoir une conscience très canadienne depuis quelque temps puis se dire qu'on va passer nos vacances au Canada ou encore on va éviter à tout prix les États-Unis, mais allez donc savoir, peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui allez passer leur été quelque part comme à Ogunquit ou je sais pas trop, moi, sur...
Puis des fois, on a de la famille à l'extérieur, fait que bon, on veut même aller voir la famille. Puis en même temps, oui, il faut encourager Canadiens, là, mais je pense qu'il y a certains États américains qui sont très amis du Canada aussi. Là.
Le Maine, le Vermont.
Voilà, tout à fait.
Exactement. Il y a un article particulièrement intéressant qui est sorti sur le New York Times et j'ai trouvé ça suffisamment intéressant pour vous en parler. Vous savez qu'à la sécurité transfrontalière, aux douanes, on a relevé ça d'un cran ou deux, hein?
Oui. Puis depuis plusieurs années, là, il y a eu le 11 septembre 2001. Ensuite, il y a eu d'autres occasions, mais quand même.
Exactement. Et depuis qu'il y a un nouveau président qui a été élu et qui a été assermenté en janvier dernier, ben ça a comme monté encore d'une coche pour différentes raisons.
Il y a oui, puis ça dépend de l'humeur du jour, la raison, mais différentes raisons, tout à fait.
C'est ça. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les agents douaniers, les agents de douane, là, qu'ils soient américains ou canadiens, soit dit en passant, ils ont pas mal de permissions, hein?
Ah, ça, je savais pas.
Ils ont pas mal de droits. Ben, des droits. Attendez, ils n'ont pas le droit de tout faire, mais ils ont quand même beaucoup de droits pour vous laisser passer.
Oui.
Vous autres aussi, vous avez des droits. Vous autres aussi, vous avez des droits. Vous pouvez dire, par exemple, si on vous demande de fouiller vos appareils électroniques, vous pouvez dire, ben, sais-tu, non, tu vas pas fouiller mes appareils électroniques. Ben, ils ont le droit en contrepartie de dire, ben, si tu veux pas qu'on fouille tes appareils électroniques, sorry, dude, là, mais tu rentreras pas chez nous.
Non, tout à fait. Puis ils vont mettre ça sur une question de sécurité à la frontière et de transparence. Mais oui, puis ce qui est compliqué des fois avec ça, c'est que là, il y a toutes sortes de raisons, mais aussi, il peut avoir toutes sortes d'humeurs.
Alors, l'an dernier, comme l'explique l'auteur de l'article, les agents des services frontaliers américains ont fouillé à peu près, en dizaines de milliers d'appareils électroniques, là, 43 000.
Oh mon Dieu!
43 000. Ça a l'air d'un gros chiffre, mais c'est somme toute pas si pire que ça. Ça a l'air que ça représente moins de 0,01% des gens qui sont fouillés.
Oh, comme, OK, c'est pas si pire. Mais ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui traversent.
Oui, il y a beaucoup de gens qui traversent, effectivement. Et faut savoir aussi que c'est une augmentation. Parce qu'en 2023, il y avait eu 38 000 appareils électroniques, grosso modo, qui avaient été fouillés. Là, l'an dernier, en 2024, on en avait fouillé 43 000. Tu comprends, on était déjà en train de se mettre dans le mood et il faudra parier qu'en 2025, ça va être encore pire. Là.
Oui, tout à fait. Il va peut-être falloir y penser ou en tout cas bien emballer nos bagages ou je sais pas. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous dire.
Bien, notre téléphone cellulaire, c'est une mine d'informations personnelles, évidemment, et ça peut renfermer des choses compromettantes. Quand je dis compromettantes, c'est pas le film que vous avez fait avec votre chum ou votre blonde, là, puis que.
Ça, olé, d'ailleurs, olé. C'est pas une bonne idée. Là.
Ça, c'est pas une bonne idée d'avoir ça dans le cellulaire. Regardez ça quelque part ailleurs,
voilà.
OK? Mais c'est pas juste de ça dont on parle. On dit, par exemple, si vous êtes un avocat en droit du travail, par exemple.
Mm-hmm.
Si vous êtes un militant des droits civiques, si vous êtes journaliste, activiste environnemental, étudiant qui avait participé à des manifs devant l'ambassade américaine contre Donald Trump, bien, si vous avez dans votre téléphone cellulaire des photos, des SMS, des choses comme ça, qu'ils aient raison ou pas de vous soupçonner, même si vous n'avez rien à proprement parler à vous reprocher, soyez pas surpris si on vous demande, on aimerait ça regarder votre téléphone cellulaire.
Hey, c'est particulier. Je ne sais pas comment je réagirais, moi, à ça. En même temps, il y aurait des photos de mon enfant et de mes chats, là, mais ça serait pas mal. Oh,
c'est pas
ça.
Trop compromettant. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des informations, des fois, dans notre téléphone cellulaire qu'on ne soupçonne pas nécessairement à être compromettantes, mais qui, aux yeux et aux oreilles d'un douanier, peuvent faire sonner une petite sonnette d'alarme dans sa tête ou allumer un petit voyant rouge, tu comprends?
Oui.
Je vous dirai quoi tantôt. Je vous donne des précieux conseils, et ça, c'est bon pour les douanes américaines. Mais c'est bon pour un peu partout à travers le monde, OK? Si vous avez absolument, mais absolument rien à vous reprocher, bon, il n'y a pas trop de problèmes à passer avec votre téléphone cellulaire aux douanes, mais cela dit, gardez quand même en tête, comme je le disais, qu'il y a certaines informations qui peuvent être compromettantes. Admettons que vous avez texté à votre mère « Je pars en vacances, je m'en vais aux États-Unis sur un road trip. » Maman répond « Ah ouais, comment tant tu vas être parti? » « Ben, je le sais pas, là, on verra rendu là-bas. » Si vous arrivez devant le douanier, puis le douanier voit vos SMS, puis dit « Ah, vous savez pas combien de temps vous allez être aux États-Unis d'Amérique. Comment vous allez faire pour subsister pendant tout ce temps-là dont vous ignorez la durée? »
Oui, puis on n'a pas le droit de travailler sans
le permis.
On
n'a pas le droit de travailler, on a besoin d'avoir de l'argent. Mm-hmm. Alors là, ça se peut que vous vous fassiez interroger et puis qu'il pousse un petit peu plus l'investigation. Partir sur un road trip, tu pars, tu dis « je m'en vais deux semaines, je m'en vais dans le Midwest, je reviens, j'ai tant de 1000 piastres sur moi. » Ah, parfait, pas de problème. Mais à minute où eux autres, ils commencent à soupçonner des affaires, ça peut allumer des voyants rouges dans leur tête.
Oui, c'est vrai, puis on y pense pas, parce que tu vois, comme tu dis, c'est anodin, là. On a texté à notre mère, c'était juste pour la tenir au courant.
Exactement. La manière d'être, disons, un peu plus précautionneux et qu'on vous recommande, c'est achetez-vous ce qu'on appelle un « burner phone ».
Okay.
Un téléphone basic, un téléphone tout à fait ordinaire.
Comme pour payer à carte, là?
Ou à peu près, c'est ça. Des téléphones que, on appelle ça des burner phones, un téléphone basic. Ça ne veut pas dire que quand vous allez revenir à la maison chez vous, vous allez le foutre au vidange. Là. Vous le gardez dans un coin de tiroir. Puis le jour où vous allez retourner aux États-Unis, vous pourrez le ressortir de ça. Mais dans ce téléphone-là, vous allez garder le strict minimum. Vous allez quand même avoir quelques applications comme Google Maps, des choses comme ça. Mais rien de bien compromettant parce que si jamais un douanier tombe sur des photos, des textos, des choses comme ça, ça risque d'être compromettant. Puis je vous donne quelques exemples de choses qu'on ne soupçonne pas, mais qui pourraient quand même vous causer, disons, des petits pépins. Mm-hmm. Vous êtes un amateur d'armes à feu, par exemple. Vous avez pris des photos de vos armes à feu pour montrer ça à votre chum. Tu sais, regarde ça, je me suis acheté une nouvelle carabine, on va aller à la chasse cet automne. Bien, si le douanier voit des photos d'armes à feu, peut-être qu'il va se poser des questions un petit peu.
Oui, et puis il risque de vous en poser aussi après.
Qu'est-ce que c'est ça? Si vous avez fait des prises de position politique dans les médias sociaux, ça peut arriver qu'ils fouillent et qu'ils regardent. Ah ouais, t'es pas si sympathique que ça de Trump. T'as des photos de guns en plus. Ah ouais, puis tu penses que tu vas rentrer et tu vas passer deux semaines dans le coin de Washington, toi. Fun?
Oui. Je comprends, mais des fois, c'est des liens faciles, on s'entend. Fait que non, si je comprends bien, il peut avoir, je sais pas, moi, j'aime une page Facebook, puis cette page Facebook-là a dit qu'elle aimait pas telle chose, bien, ça fait que je pourrais être bloquée parce que je suis fan de page de chat noir sur Facebook.
C'est ça. Mais ce que je vous dis finalement, c'est que si vous êtes plus blanc que blanc, ça pourrait aller. Mais si en revanche, vous êtes, par exemple, un avocat, si vous êtes, comme je le disais tantôt, un étudiant, un travailleur étranger qui n'a pas de statut de résidence permanente ou encore qui n'est pas un citoyen canadien, si vous êtes un politicien, un journaliste, si vous avez un métier qui, le moindrement, peut y avoir des ficelles qui sont attachées à quelque part ou des choses qui pourraient ne pas revenir à un douanier des services frontaliers américains, soyez prêts à être questionnés. Puis la meilleure affaire, comme je vous l'ai dit tantôt, achetez-vous donc un téléphone. Il y a des téléphones Android très, très bon marché qui valent à peine quelques dizaines ou centaines de dollars, pas très cher, là. Traînez pas votre gros iPhone, le dernier iPhone à la page qui vous coûte 1500, 1600 pièces puis qui est rempli de photos puis de choses compromettantes. C'est juste ça qu'on vous dit. Puis c'est parce que c'est la période des vacances qui s'en vient, fait que...
Oui, puis des fois, en vacances, il y a plus de chances de briser le téléphone. Fait que d'en avoir un qui coûte moins cher, ça fait un peu moins mal au cœur aussi si on l'échappe en canot ou en kayak ou quelque part en camping des fois.
Ouais, c'est ça. Tu veux nous parler de potager, toi?
Oui, bien, tant qu'à échapper des choses par terre, on va se mettre les mains aussi par terre. Jardinage, en fait, parce que c'est le mois de mai, c'est le mois où, enfin, on peut planter nos choses sans avoir peur de perdre nos jardins, nos récoltes et nos plants. Parce que, bon, on a un climat nordique, là, je t'apprends rien, Simon.
Ah, moi, c'est vrai?
On a un climat assez froid, on vient de s'en sortir. Par exemple, tulipes ici à Ottawa, elles sont encore très, très cachées parce que ça n'a pas été chaud dans les dernières semaines. Donc, mois de mai, c'est vraiment le mois idéal pour jardiner. Est-ce que tu en as un à la maison et tu un fan?
On n'a pas un potager. On en a déjà eu un, mais on a des petites jardinières. Là, des fois, on va planter, mettons, quelques fines herbes ou des affaires comme celle-là. Mais gros potager, là, avec les rangs puis le cerclage puis tout ça, pas tant.
Non, mais ça appartient à mon chum qui est un peu intense de faire avec les grands rangs puis, tu sais, les grandes structures, là, faut... Oui, mais comme en général, pour les gens, je pense que des petites jardinières, comme tu dis, une coupe de fines herbes pour jardiner, des tomates, des cocombes, tu sais, la base, vraiment. Puis juste ça peut tout faire aussi la différence dans un budget. Puis on en parlera un peu plus tard, là, pour les économies, comme je disais, tout est dans tout.
C'est ça.
Mais vraiment, ça peut faire toute une différence. Donc, si, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, normalement, on peut commencer à planter dès la mi-mai. Donc, dès le week-end ou la longue fin de semaine de la fête de la Reine. Ça, c'est vraiment Ontario, sud du Québec, un peu dans ce coin-là. Si on est dans les prairies, après ça, il faut attendre un petit peu plus vers la fin du mois, vers le début du mois de juin pour planter, parce que sinon, on risque de devoir courir et abrier nos tomates.
Ouais.
Et ça, c'est toujours drôle, un peu, quand même, comme situation, parce que la première fois, il faut que tu trouves la façon d'abrier tes tomates sans les
briser. Pour pas les briser.
C'est ça. Puis là, tes voisins te regardent travailler, puis ils trouvent ça bien drôle, puis ils viennent pas t'aider. Mais c'est ça. Ça fait partie des plaisirs.
Le voisin est assis avec une petite frette dans sa chaise longue, puis t'en regardes. Lâche pas, je t'en regarde, j'ai du fun.
Ouais, c'est comme quand tu laves ton auto, puis dis, c'est-tu moi le prochain? Ouais, viens. Mais bref, pour revenir au jardinage, ensuite, on a quelques étapes aussi à suivre, parce que dépendamment, là, si on a des jardinières où on jardine par terre, bien, préparer le sol, évidemment, bien le nettoyer, mettre du compost, du fumier là-dedans pour s'assurer que ce soit un sol riche. Évidemment, planter les cultures et les planifier, parce qu'il y a certaines cultures qu'on plante plus tôt, comme les radis, les pois, les carottes, les laitues, ça peut pousser tout au long de l'été. Puis un peu plus tard, bien là, comme on se disait, la fameuse fin de semaine de la fête de la Reine, aux alentours du 20 mai, on peut planter nos carottes, nos cocombes, puis après ça, bien, le jardin part, puis on s'en occupe. Fait que c'est vraiment une belle fin de semaine pour ça. Puis je trouve que ça fait des beaux souvenirs aussi, puis des beaux moments. Moi, j'ai un enfant qui est plus jeune un peu, puis c'est le fun de le voir jouer dans la terre, puis après de le voir qu'il réalise qu'il a réussi à planter quelque chose, qu'il a fait des... Bon, il comprend pas encore le principe de pas manger tomates vertes versus les tomates rouges, les tomates cerises, mais c'est... Ça s'en vient.
Mais au moins, on lui apprend à un jeune âge que les carottes, ça ne pousse pas dans un sac en cellophane à l'épicerie. Tu sais.
Exactement. Puis ça prend du travail pour faire pousser des bons fruits, des bons légumes. C'est bon, mais ça prend du travail.
Exactement.
Fait que je vous invite à aller vous informer, aller dans vos serres locales, dans les centres de jardin. Amusez-vous, sortez dehors puis allez faire des belles jardinières.
Tu vois, c'est drôle, hein, parce que tu viens parler justement d'économie locale, d'encourager les serres locales. Puis même si on fait pousser chez soi nos légumes puis on les achète pas nécessairement de producteurs maraîchers à notre supermarché, bien juste d'aller acheter des graines puis aller acheter les engrais puis les choses comme l'équipement chez un quincailler ou un botaniste ou un centre jardin pas très loin de chez soi, déjà on fait virer l'économie locale. Hein? Quand tu dis que tout est dans tout, là, j'aime ça cette expression-là.
Oui, et puis attends de voir ma prochaine chronique avec mes applications. Tu vas voir, il va y avoir plein de liens avec ce qu'on vient de dire.
Parfait. Alors, dans un tout petit instant, au retour de la pause, on parle de gaspillage alimentaire. En fait, de comment éviter le gaspillage alimentaire.
Oui, et d'applications aussi qui nous permettent de sauver des sous pour l'alimentation.
Parfait, restez branchés.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
On a de la suite dans les idées parce qu'on a parlé de potager tout à l'heure. Et puis là, on va s'attaquer au gaspillage alimentaire, mais particulièrement les façons d'éviter le gaspillage alimentaire avec des applications, c'est ça?
Oui, c'est un peu ça. Puis aussi, bien, quand on parle de gaspillage alimentaire, souvent dans les épiceries, bien, les invendus, ce qui devient un peu moins frais, ce qui approche de la date de péremption. Fait que c'est un peu tout ça que je vais englober. Donc, j'avais envie de vous proposer des applications pour l'épicerie, sauver à l'épicerie, sauver pour le gaspillage alimentaire. Donc, en fin de journée, certains commerces qui liquident certains produits. Puis, bien voilà, en fait, puis je les ai même testés, en fait, pour vous cette semaine. J'ai fait quelques tests.
Elle a joué la cobaye.
Ah oui, je me sentais comme une super scientifique. En tout cas, bref.
En même temps, tester des applications contre le gaspillage alimentaire, c'est pas comme tester des serpents, tu sais.
Non, c'est vrai que, dans l'échelle du danger, on n'est pas à la même place.
On n'est pas à la même hauteur.
Mais moi, j'ai plus testé des sacs de pâtisserie en spécial. Fait que non, on n'est pas
dans la même game.
Non, tout à fait. Première application que je te parle, Simon, c'est Flip. C'est le champion des circulaires numériques. En fait, c'est comme le fameux Publisac, là, ou le sac de circulaires qu'on a à la maison. Mais au lieu d'avoir 12 000 papiers, bien, ça se retrouve à un endroit. Puis dépendamment de ta localisation, donc peu importe l'endroit où tu te trouves, on va te donner les meilleurs spéciaux. Donc, si tu cherches des patates, fait que là, t'écris dans ton application Flip, patates, dépendamment d'où tu es, bien, tu vas avoir la liste des meilleurs prix pour tes patates. Fait que là, ça devient un petit peu plus facile pour pouvoir faire la liste d'épicerie, savoir où aller, économiser aussi dépendamment des prix. C'est sûr qu'il faut être prêt peut-être à faire plus d'un endroit. Puis là, dépendamment, bon, est-ce que c'est tellement loin que finalement, tu n'économises pas en déplacement? Des fois, il y a cette réalité-là aussi en région, il faut y penser. Mais quand même, sauver des sous pour l'épicerie, il y a ça. C'est un peu comme Ruby. Est-ce que tu connais Ruby?
Oui, je connais Ruby.
Même principe, c'est juste pas la même interface. Puis je pense qu'avec Ruby, en fait, l'avantage que tu as, c'est que tu peux faire ta liste.
Oui,
contrairement à sur Flip. Donc, deux applications, là, dépendamment de vos préférences. Gros coup de cœur pour la prochaine application qui s'appelle Too Good To Go. C'est donc contre le gaspillage alimentaire et pour le portefeuille. Donc, ça fonctionne un peu plus dans les grandes villes parce qu'il y a un plus grand volume de commerce. Mais comment ça fonctionne, en fait? Donc, c'est des boulangeries, des épiceries, des restaurants qui vendent des invendus à petit prix à la fin de la journée. Donc, on réserve comme un surprise bag. Puis dans l'application, on paie ça, tout ça. Donc, admettons, aux alentours, là, normalement, ce que ça dit, c'est entre 4 et 6 $. Tu payes ton petit sac surprise et à la fin de la journée, tu vas le chercher en finissant de travailler. Puis ça peut valoir, puis j'ai fait des tests, là, des fois, c'est exemple, Tim Hortons. Des pâtisseries. Il y en a beaucoup. Ça peut valoir 20, 30 $ l'équivalent qui est dans mon sac, mais j'ai payé 6 $.
Oh, wow! OK, il y a quand même une belle économie, là.
Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, quand même des belles économies, puis on est là, puis on sauve le gaspillage alimentaire, puis bon, on se fait plaisir aussi en même temps. Là, je vous parle de pâtisserie, mais il y a des choses qui sont santé aussi. Il n'y a pas juste les pâtisseries, on s'entend. Il y a des produits qui sont plus santé, des fruits, des légumes qui arrivent en fin de vie ou dans les épiceries qui sont disponibles aussi pour ça. Autre application maintenant pour les rabais de dernière minute, donc ce qui est près de la date de péremption. Donc, des fois, on parle de mets préparés ou des choses comme ça. Flash Food, ça s'appelle Flash Food, cette application-là. Et c'est Loblaws, Maxi, Provigo qui utilisent cette application-là. Donc, quand on est près de la date de péremption, on les achète directement sur l'application en prix réduit. Puis ensuite, bien, on va les chercher au supermarché, là, aussi simple que ça à la fin de la journée. Puis, si vous étiez du genre aussi, as-tu déjà fait ça du couponing, Simon?
Un petit peu, pas dans les circulaires en revanche, mais j'avais une application pour ça. Je m'en sers moins, là, je sais pas pour quelle raison.
Oui, bien, ça s'est un peu perdu, je te dirais, avec l'espèce de pandémie, puis ça a changé, c'était beaucoup de manipulation. Mais là, il y a des applications de couponing 2.0. Il y en a une d'ailleurs qui s'appelle Checkout 51.
Oui.
Donc, principe, tu achètes un produit en magasin, on garde le reçu, vous le prenez en photo via l'application, puis après, ben, un peu plus tard, là, quelques jours plus tard, vous recevez des remboursements. C'est pas à se garrocher ses murs ou pour appeler sa mère, on s'entend. C'est quelques sous, quelques dollars, mais quand même, à force de faire, ben, on peut accumuler là, des bonnes économies avec tout ça. Donc, c'est une application qui est intéressante aussi si vous n'avez pas envie, encore une fois, là, de fouiller tous les circulaires pour pouvoir trouver les coupons. Et en terminant, si jamais vous avez des fois de la difficulté, un peu comme moi, à faire le bon choix, tu sais, parce que des fois, on a des produits qui sont similaires, mais est-ce que c'est un produit santé, pas santé? Est-ce que c'est, avec la liste, ça devient compliqué des fois, puis on s'y perd. Il y a une application qui s'appelle Yuka, Y-U-K-A, et c'est pour savoir si le produit est bon ou pas. Tu scannes le code barre, et là, l'application va te donner une note sur 100. Est-ce que c'est un bon produit ou pas? 100% évidemment, c'est bon. 50% c'est moyen. 0% c'est pas bon. Et là, ben, tu peux savoir. Puis en plus, on te propose des alternatives. Donc, si tel produit, je sais pas moi, telle amande salée, finalement, oh, c'est pas un si bon choix que ça. Voici un produit similaire qui pourrait être plus approprié pour avoir un meilleur choix santé. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis c'est sur le téléphone, fait que ça prend pas de temps, ça prend pas de place, c'est pas plein de papier. Je vous invite quand même à essayer ça pour faire des économies.
Ah, il y a des belles applications, franchement, là-dedans. Puis c'est gratuit dans la totalité des cas. Il n'y a aucune qui est payante. Là.
Oui, non, c'est tout gratuit. Parce que, ça serait vraiment contre-productif de faire des économies à l'épicerie, mais d'être obligé de payer pour ton application.
Bien, on s'entend qu'il va falloir payer pour les denrées, mais je veux dire, pour la télécharger, où il n'y a pas d'abonnement payant, de mensualité, de choses comme ça.
Non, suffit, en fait, simplement de se créer un compte qui est assez simple. On peut cocher ne pas recevoir d'emails pour ne pas être envahi par toutes sortes de courriels. Et ensuite, c'est très simple d'utilisation. Rebit, tu l'utilises quand tu veux. Même chose pour. Je sais pas, moi, tu reçois des amis un soir cette semaine. Hey, on va aller ramasser telle affaire à tel resto. Ça va être moins cher, puis ça va éviter un peu de gaspillage.
Bien, c'est bien intéressant. Merci beaucoup. On va parler du véhicule le plus improbable de l'histoire. Selon toi, véhicule routier le plus improbable de l'histoire?
Bien, écoute, ma première pensée, c'est le Cybertruck. Puis j'essaie, je me dis, on va essayer d'enlever d'autres choses. C'est imbattable dans ma tête.
Bien, tu sais, c'est dur. La barre a été mise haute, mettons.
Oui.
Mais oubliez la trottinette électrique ou encore le Cybertruck d'Elon Musk comme véhicule parmi les plus improbables de l'histoire, parce qu'il y a mieux ou pire, c'est selon.
OK.
J'avais le goût de fouiller un petit peu parce que je me suis dit, le beau temps est en train de prendre, on va aller prendre des randonnées, des fois on s'en va faire des rides en auto, comme on dit, avec la décapotable et tout ça. Le véhicule certainement le plus improbable de toute l'histoire est sans contredit la Dynasphère.
Oh, hey, ça me dit rien.
Ça existait.
OK.
C'est ça le pire, OK?
On dirait une espèce d'auto futuriste, là, comme des années 60.
Très futuriste.
Ah ouais, hein?
Très, trop futuriste.
OK. Hein?
Ça a été breveté au tout début des années 30 par un ingénieur électricien anglais du nom de John Archibald Peirce. Et la Dynasphère s'est inspirée d'un croquis de nul autre que Léonard de Vinci.
OK.
Vous chercherez, après cette chronique-ci, après cette émission-ci, vous chercherez dans Internet, dans Google, Dynasphère, D-Y-N-A-Sphère, Dynasphère. C'est un véhicule, en fait, tellement futuriste que, même encore aujourd'hui, on ne peut pas voir quelqu'un voyager là-dedans. Moi, je ne m'imaginerais pas me promener sur la route, par exemple, sur la Transcanadienne en plein été, puis « Wow! » Ils viennent me passer une Dynasphère à côté de moi. Alors, il s'agissait d'une grande... Tu as l'air un peu...
Excuse, parce que pendant que tu nous as invités à le googler, je l'ai googlé pour avoir... C'est une grosse roue!
C'est ça. C'est une roue d'Amster. Et ça a existé, hein? Ça a existé.
T'imagines-tu être pris dans le trafic avec ta Dynasphère?
C'est beau, hein, quand même. C'est beau, c'est spécial, hein? C'est une grande cage métallique, imaginez-vous ça, en forme de pneu, un petit peu, et les côtés étaient creux, et à l'intérieur, le conducteur s'assoyait dans une espèce de cockpit qui était monté sur le moteur. Imaginez une roue d'hamster.
Oui, c'est exactement ça.
C'est exactement ça. C'est le même principe que la roue de hamster à toute fin utile.
Et la roue roule autour du conducteur.
Exactement.
Parce que le conducteur ne fait pas le tour de la roue non plus.
Non, il reste là. Okay, c'est ça le principe un peu. Alors, le plus extraordinaire de tout ça, c'est que Peirce, le type en question, il en a construit plusieurs exemplaires. Là. D'abord, il a fait un petit modèle électrique, parce que lui, c'est un ingénieur électricien. Donc, il voulait démontrer que c'était possible de faire un véhicule électrique qui était un peu weird là, ou bizarre. Imaginez si ça avait collé. Pour se promener avec des véhicules électriques comme ça aujourd'hui.
Hey, ça serait d'autres choses, ça serait différent.
Bien, c'est ça. Hein? C'est un peu spécial. Puis, il a réalisé un modèle plus grand qui était haut de 3 mètres, donc près de 10 pieds, qui était équipé d'un moteur à essence à 2 cylindres, refroidi à l'air, et un moteur qui avait entre 2,5 ou 6 chevaux. Sources se divergent un peu. Mais c'est un prototype qui était quand même assez gros. Là. C'était une grosse cage, gros treillis en fer qui pesait à peu près 450 kilos. Et entre autres caractéristiques techniques, cette Dynasphère était dotée d'une boîte de vitesse à 3 rapports, donc il y avait deux marches avant, c'est pour ainsi dire, puis une marche arrière.
Oh, on pouvait reculer en plus.
On pouvait reculer aussi. Ça roulait à peu près à quarantaine de kilomètres la vitesse de croisière. Le pic, c'était 50 km/h. Et la façon dont ça fonctionnait, c'est que le cockpit, comme j'ai dit, était à l'intérieur. Il était sur le moteur. Et quand tu actionnais la Dynasphère, la roue commençait à tourner. Le cockpit voulait monter. Comme pour un hamster
qui essaie.
Exactement. Et le point de gravitation, si on veut dire, était tellement bas, c'est qu'il ne réussissait jamais à monter dans la roue, si bien qu'il restait là, par terre, stable, fixe. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme l'hamster là, qui voulait grimper dans sa roue, un centre de gravité qui était très, très bas. Donc, il faisait que tu restais avec une garde au sol qui était très, très proche du sol. Et c'était quand même difficile à conduire. Là.
Bien, j'imagine. Puis, tu sais, c'est quoi ma première pensée avec tout ça? Parce que, bon, c'est quand même quelque chose qui est ouvert, là, chaque côté. Ça doit pas être chaud conduire ça en hiver.
Non. Bien, c'est pour ça que j'ai dit je vais en parler. Parce que, imaginez-vous, dans une Dynasphère, par une belle journée d'été, vous promenez sur les routes avec votre roue de hamster à quelque part.
En écoutant du Bryan Adams. Hein?
Mettons, tu sais, ouais. Summer of 69 à plein volume dans ta roue de hamster sur l'autoroute, tu sais, ce serait pas pire quand même, non?
Oui, je l'essaierais, mais mesdames, il faudrait s'attacher les cheveux parce que je pense qu'on se ramasserait avec...
Penche d'un bord, penche de l'autre, c'est comme ça qu'on conduisait à toute fin utile.
Un peu comme avec une moto.
C'est un peu ça, quand tu t'inclines, c'est ça, tu t'inclines dans les courbes, c'était un peu comme ça. Et il a fait de nouveaux prototypes au fil des années, M. Purves. Et le pire dans tout ça, c'est que lui était tellement optimiste qu'il a même fait un autobus.
Ben voyons donc.
Un autobus qui s'appelait la Dynasphère 8. Puis si tu cherches Dynasphère, tu rajoutes un 8. Tu vas voir en 1935 qu'il y avait un véhicule Dynasphère qui a été construit à 8 passagers.
Ben voyons donc. Ça n'a pas de bon sens.
Oui.
Hey, c'est pas pratique, là.
C'était tout un objet de curiosité à l'époque. Lui, il était convaincu. Il y a beaucoup de gens aussi qui étaient convaincus que ça allait fonctionner.
Hey,
ça a été filmé.
Il a pris courant, notre électricien, parce que...
Il y avait probablement eu un choc au cerveau, je ne sais pas trop. Hein. La firme Pathé, tu sais, la firme de cinéma Pathé, là, qui faisait des films à l'époque, ils ont filmé ça en 1932. Il a fait des démonstrations publiques, puis les gens assistaient à ça, à des démonstrations de la Dynasphère. Le magazine Popular Science, en 1932, le magazine scientifique a consacré un article complet à la Dynasphère pour expliquer comment ça fonctionnait et tout ça. Alors, dans les années 30, la Dynasphère, on visait une commercialisation d'une roue de hamster géante pour que les gens puissent se déplacer d'un point A au point B, un peu de la façon d'un hamster qui court dans sa roue.
Ah, moi, je reviens pas encore, parce que je regarde l'image de l'autobus roue. Là. Hey, c'est du monde dans une roue.
C'est 8 personnes.
Oui. Est-ce qu'on sait pourquoi ça n'a pas fonctionné, finalement? Ils l'ont essayé...
C'est parce que c'était très difficile à conduire. Oui. On ne sait pas trop comment est-ce que les gens auraient adhéré à ça. Puis ça n'a pas tellement levé. Là. Les gens, ils trouvaient que c'était un bon concept ou c'était intéressant, mais finalement, il n'y a pas personne nécessairement qui était intéressé à aller chercher une Dynasphère. Fait que le gars, il s'est dit, sais-tu quoi? On va laisser faire.
Ben oui, mais écoute, je suis contente de connaître ça. Vraiment, ma culture générale se porte mieux maintenant.
Oui, ben écoute, rêve d'avoir une Dynasphère, on va aller faire un tour de Dynasphère, mais c'est ça. C'est probablement le véhicule. Moi, j'estime personnellement que c'est le véhicule le plus improbable qui a circulé sur les... Ça a fonctionné, là, c'est ça le pire. Là.
Ben j'en doute pas, puis ça aurait peut-être changé l'histoire. Tu sais, au lieu d'être dans ma Camaro, dans ma truc-sphère, dans ma Dynasphère, je me promènerai les cheveux dans le vent.
Sur les chemins d'été, bien, je promènerai ma Dynasphère ou un affaire. Comme ça.
De toute beauté.
On va parler de peintres dans un instant parce que la dernière portion de l'émission s'amène et c'est un quiz sur les peintres.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz. Le quiz.
C'est notre dernière ligne droite de peu contenir des infos et nous allons faire un quiz sur... Je regarde sa face. Faut pas que je la regarde parce qu'elle va partir à rire. C'est un quiz sur des peintres célèbres.
Aïe, aïe, aïe.
Ou enfin, qui ont atteint un certain degré de célébrité, mais certains d'entre eux sont un petit peu, j'allais dire méconnus, non, sous-estimés.
OK. Peut-être que j'ai des meilleures connaissances que je pense, mais on dirait que c'est pas quelque chose que je pratique souvent, mes peintres célèbres, dans ma tête.
Je te dirais que tu devrais pas avoir trop de difficultés.
OK.
Pour vrai, là, je sais pas si les gens à la maison, eux autres, ont des connaissances en peintres célèbres, mais puis j'irai pas dans Benjamin Moore puis des affaires comme ça. OK. Première question. Hey, celle-là, là, quand même. Dans quel pays le célèbre Léonard de Vinci, le peintre de la Joconde, est-il né? Est un choix de réponse. A, la France. B, le Portugal. C, l'Espagne. Ou D, l'Italie?
Je vais y aller avec l'Italie.
Ouais. Ben, t'as une bonne réponse.
Wouhou! Yes!
Bravo.
Hey, j'ai pas zéro.
Ben, déjà en partant, c'est un bon point.
Je viens d'élever
mes attentes. Tu peux prendre des notes, là, si tu veux, puis noter tes points. Alors, effectivement, la lettre D, c'est Léonard de Vinci. En italien, Leonardo di Ser Piero da Vinci. Je le prononce correctement. Je pense pas qu'il va m'en vouloir. Hein.
Non, puis Dieu, on se parle pas souvent en italien non plus.
C'est ça. Hein? Alors, il a vu le jour en 1452 à Vinci, en Toscane, une région du centre-ouest de l'Italie. Alors, Leonardo di Ser Piero da Vinci. Léonard de Vinci en français. Deuxième question. Celle-là est spéciale un petit peu. Si j'énonce le nom du peintre Bob Ross...
Oui?
Okay. De qui s'agit-il?
Okay.
Est-ce A, un célèbre artiste peintre ayant animé à la télévision américaine? B, un portraitiste préféré de la famille royale britannique? C, le détenteur du record Guinness de la toile la plus coûteuse au monde? Ou D, celui qui a peint la majorité des fresques murales du Vieux-Québec?
J'aurais tendance à dire « Ah ».
Oui, hein?
Oui.
Tu vois?
Quand il y a des cheveux incroyables, Bob Ross.
C'est pas pire, hein? J'aime bien Bob Ross. Robert Norman Ross, mieux connu sous le nom de Bob Ross, c'était un artiste peintre et animateur de télé américaine qui a animé la célèbre émission « The Joy of Painting » 1983 à 1994. Ça a duré quand même un certain temps.
Hein? Vraiment, plus de 10 ans.
Oui. Alors, c'était sur la chaîne PBS et ça a même été vu à l'étranger par la suite. Il a initié les téléspectateurs aux techniques de peinture pendant plus d'une décennie. Et fait à noter, quand je dis qu'il est célèbre, il est quand même assez connu, là, son premier tableau qu'il a peint à la télévision dans son émission « A Walk in the Woods », c'est une peinture qui a été évaluée à peu près à une dizaine de millions de dollars.
Ben voyons donc.
Ouais.
De par l'historique, de par... Ben oui, je comprends.
C'est pas Léonard de Vinci, mais ça reste quand même...
Ben, être vraiment riche, j'aimerais savoir un Bob Ross, moi, à la maison.
C'était beau quand même, ces peintures, hein?
Oui, mais juste pour l'histoire aussi, hey, ça, c'était un Bob Ross.
Ça avait l'air facile en plus, c'est ça le pire.
Tout à fait.
Tu le regardais faire, tu sais. Vous rajoutez une petite feuille, là, puis c'est ça.
Puis toi, quand t'essayais de faire ça, c'était juste une tache. C'était brun, c'était approximatif.
Si je te parle de Frida Kahlo...
Un peu moins.
Elle a peint 143 tableaux très significatifs de la culture mexicaine, dont plusieurs autoportraits. À quel siècle a vécu Frida Kahlo? Tu sais, c'est celle qui avait l'air d'avoir un monosourcil un peu, là?
Oui.
Okay. OK. Alors, est-ce qu'elle a vécu au 19e siècle, 19e et 20e siècle, au 20e siècle uniquement, ou au 20e et 21e siècle?
J'aurais tendance à te dire la plus vieille réponse.
Au 19e siècle?
Oui.
Mauvaise réponse. Ah. Frida Kahlo, une artiste peintre mexicaine qui est née le 6 juillet 1907 et décédée le 13 juillet 1954. Elle n'a donc vécu qu'au 20e siècle.
Et pas très longtemps.
Et pas très longtemps, hein? Mais il faut dire qu'elle avait une santé assez fragile. C'est une femme qui avait eu la poliomyélite quand elle était très jeune et elle a survécu plus tard dans sa vie à un grave accident de bus.
Quand même, hein?
Elle a survécu, mais elle n'a pas vécu très, très vieille, effectivement, dû justement à sa condition un peu fragile. Quatrième question. De quel mouvement artistique Pablo Picasso est-il le créateur?
J'ai un choix de réponse?
Oui, okay, absolument. Puis tu vois, c'est assez facile. Oui,
c'est parce que je suis meilleure avec les choix de réponse, on dirait. J'y vais par élimination.
A. Le pointillisme. B. Le cubisme. C. L'art naïf. Ou D. L'impressionnisme.
J'irais avec l'impressionnisme.
Non.
Pour vrai? Oh, c'est-tu l'art naïf?
C'est le cubisme.
Ah, oh, ouais!
Puis Pablo Picasso, il peignait, tu sais, des triangles, puis des cubes, puis des genres de choses comme ça, des formes géométriques, toutes
raison.
De couleurs multiples qu'il mettait une fois toutes mises les unes avec les autres. Alors, le cubisme, c'était un artiste d'origine espagnole qui utilisait différents supports pour son travail. Il est considéré comme l'un des fondateurs du cubisme avec le français Georges Braque. Un peu moins connu, mais Pablo Picasso, on s'entend que...
Oui, quand même, il est bien connu.
C'était des bonhommes avec une oreille d'une place, puis tout ça. Puis
là, il est décalé, loin.
En cube ou en triangle, puis en choses comme ça. Ça
fait du sens maintenant que tu en parles, comme je repense à ses œuvres. Puis je suis, oui. Mais c'est ça, c'est que c'est pas comme le premier, la première chose que tu vois, c'est autre chose qui fait qu'il y a des formes, des cubes. Oui.
Est-ce que tu connais Tex LeCorps?
Oui.
Tex LeCorps, qui était un célèbre chanteur.
Oui, je connais sa partie
évidemment.
Chanson.
Alors, il a connu une carrière plutôt intéressante en chanson et en musique.
Oui.
Mais vrai ou faux, sa carrière d'artiste peintre a été beaucoup plus longue et beaucoup plus prolifique que sa carrière de chanteur.
Et j'ai envie de te dire vrai.
Ben, t'as bien raison.
Yes.
Bravo.
Ben, oui.
Vrai. Il a connu une carrière de chanteur qui était quand même assez intéressante avec des titres comme Le Frigidaire, entre autres, Ram, ou encore T-Bessic, Brum, 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 Simonti, Bessic. Ben, c'est lui, ça. Alors, Tex LeCorps, il a connu quand même une belle carrière et de la fin des années 70 jusqu'à sa mort en 2017, donc pendant tout le reste de sa carrière ou à peu près, là, il a fait presque strictement que ça. Il a peint. Il a fait un petit peu de télévision à un moment donné.
Oui.
Tu rappelles, il y a plein de soleil, là. Mais puis il y a de ces tableaux qui sont évalués à quand même plusieurs milliers de dollars, là, même dans les dizaines de milliers de dollars, un Tex LeCorps. Il y a, entre autres, une toile à l'acrylique, Église les éboulements, qu'elle s'appelle. Elle est évaluée en 2025 à plus de 10 000 $
Wow!
Donc, peut-être que tu n'aurais pas d'argent pour t'acheter un Bob Ross.
Oui, mais un Tex LeCorps.
Un Tex LeCorps, par exemple.
Elle serait pas pire. Je me demande s'il y a quelque chose à propos de sa chanson de Frigidaire, tu sais, comme une œuvre qui pourrait représenter ça.
Il faudrait que je fouille un petit peu, mais peut-être, ça se peut arriver. Ça...
Mais oui, on le sait, tout est dans tout.
Sixième question. Laquelle de ses œuvres n'en est pas une du peintre néerlandais Vincent van Gogh?
OK. Oh boy.
T'as le choix de réponse. Mais Le choix de réponse, si t'es le moindrement, comment je dirais ça, si t'as l'esprit éveillé un peu sur les arts, sur la peinture, direct en disant le titre de la peinture, tu vas dire, ah non, ça, c'est pas du Vincent Van Gogh.
OK.
C'est à peu près certain.
OK, faut que je te dise celui qui est pas Vincent Van Gogh.
Qui est pas Vincent Van Gogh.
OK.
A, La nuit étoilée. B, Le cri. C, Champ de blé au corbeau. Ou D, Le café de nuit.
Et là, il y a un criquet dans ma tête en ce moment.
La nuit étoilée. Le cri, Champ de blé au corbeau ou Le café de nuit? Ça, j'avoue qu'elle est assez solide, celle-là.
Écoute, je vais y aller avec Le café de nuit.
Je pensais que tu allais me dire B, Le cri.
Ah, c'est pas lui, Anne Cri.
Non,
oh,
Le cri,
c'est... comme c'est la seule œuvre que je connais dans ça.
Le cri, c'est une œuvre expressionniste de l'artiste norvégien Edvard Munch. Mm. Le cri de Munch, c'est l'un des 10 tableaux les plus populaires à travers la planète.
Ah, oh, j'en doute pas. On l'a vu dans des films partout, là, avec les mains sur les joues, là, il crie.
Les Simpsons ont même fait, tu vois ça dans un... Alors lui, là, il y a 5 versions du cri de Munch. 1893, il a peint ça en 1893 et 1917. Et c'est une œuvre qui représente l'homme moderne emporté par une crise d'angoisse existentielle.
Oh, quand même.
Je pensais pas que mes questions étaient si difficiles que ça.
Ben écoute, c'est de la peinture, c'est pas mon premier médium.
Non, mais, je comprends.
Écoute, c'est pas grave, j'apprends plein de choses. C'est ça l'important.
C'est ça l'important.
Je vais faire meilleur au prochain quiz.
C'est ça l'important. Oui, c'est exactement ça. Puis je veux que les gens apprennent en même temps. Trois de ces 4 grands peintres sont... Puis tu pourras me pogner la semaine prochaine si ça tente. Hein?
Ben écoute...
Je l'ai pas fait dans ce but-là, là.
Non, mais comme je te dis, gars, on va apprendre à se connaître, Simon. Mais moi, je suis pas rancunière, mais j'ai une bonne mémoire.
Okay.
Fait que si tu me fais des quiz, c'est difficile.
Okay.
Je vais peut-être faire des quiz. Peut-être, on sait pas.
C'était pas pour des pogs, mais si je veux que les gens apprennent. 3 de ces 4 peintres sont d'origine française, mais un seul ne l'est pas. Lequel? Je pense qu'elle est assez facile, celle-là, honnêtement.
Hey, depuis que tu dis ça, je me plante, mais vas-y.
Est-ce que c'est Claude Monet, Paul Cézanne, Auguste Renoir ou Alfred Pellan?
Claude Monet, c'est pas un Canadien? C'est pas lui?
Non.
Je me suis trompée, hein, c'est ça?
Tu te donnes un autre choix, mettons.
Est-ce que je peux avoir un...
Ouais. Claude Monet, Cézanne, Renoir ou Pellan?
Hey, là, il y a des gens... J'entends les auditeurs me crier la réponse en ce moment, mais j'entends pas la réponse. Je sais pas. J'en ai aucune idée.
Alors, Claude Monet, Paul Cézanne et Auguste Renoir sont tous natifs de la France. Je ris parce que je me dis, peut-être j'ai fait un quiz trop compliqué.
Non, mais c'est pas grave. Comme je te dis, j'apprends des choses. J'apprends plein. Puis un quiz que c'est trop facile puis qu'on a toutes les bonnes réponses, c'est pas le fun.
Ben là, c'est « Wants to be a millionaire », là.
Ben oui, non, mais je sais, c'est mais pas, j'ai quand même 3 bonnes réponses jusqu'à maintenant. C'est pas super. Je suis pas à zéro.
Alors, Alfred Pellan, décédé en 1988, c'était plutôt un peintre canadien. Je me déteste, là, sérieusement.
Mais non, mais c'est pas grave. Écoute, c'est pas le pire quiz. J'ai déjà eu des quiz pires que ça dans ma vie, inquiète-toi pas. Puis là, j'apprends des choses.
Tu connais Salvador Dali, forcément.
Oui.
Un peintre surréaliste.
Oui.
Je ris parce que je dis, voyons, ça se peut pas. J'ai posé des questions bien trop difficiles, mais en tout cas.
Non, mais t'es comme un jeune panoude, là. T'as trop de connaissances. On va y travailler. Je m'en viens.
La persistance de la mémoire. Là, peut-être que ça te dit rien, mais quand je vais donner le choix de réponse, on va dire, ben oui, c'est ça. Alors, c'est une peinture qui a été peinte en 1931. Qu'est-ce qu'on voit fondre là-dedans?
Ah, oh, les horloges?
Les horloges!
Yeah!
Exactement. Ben, des montres, des horloges, oui. Exactement. Wouf! OK. Parce que là, je me disais, voyons, j'ai-tu fait... Alors, j'avais comme choix de réponse un bonhomme de neige, des montres ou des horloges, oui. Si on veut, des lunettes et un clocher d'église. Ben, c'est ça. Exactement, c'est ça.
Oui, celle-là est quand même très célèbre.
Oui. Alors, peint en 1931, la persistance de la mémoire montre des montres ou des horloges, si on veut, des cadrans qui sont en train de ramollir dans un paysage désertique. Ça symbolisait la fluidité et l'illusion du temps. Et c'est comme je disais tantôt, il y avait le cri d'Edvard Munch, là.
Oui.
Mais ça en est une autre des toiles les plus célèbres du monde.
Oui, puis tu vois, le nom me surprend, puis on dirait que ça me permet d'analyser aussi avec l'image puis la peinture. Mais oui, c'est intéressant. Ça va bien.
Alors, nous reste 2 questions et le temps file. La jeune fille à la perle,
oui.
De Johannes Vermeer, c'est une peinture à l'huile qui a été réalisée par le peintre néerlandais vers 1665. On l'a tous déjà vu, la fille avec...
Oui.
Okay. Alors, on l'a surnommée, on lui a donné un autre surnom. Est-ce que c'est la Joconde du Nord pour sa ressemblance avec une toile de Léonard de Vinci? Est-ce que c'est la Vénus néerlandaise pour sa ressemblance avec une toile de Botticelli? Est-ce que c'est la Frida Kahlo d'Europe parce qu'elle ressemblait à Frida Kahlo? Ou est-ce que c'est la Petite Reine parce qu'elle avait l'air d'une souveraine?
C'est toutes des bons choix de réponse, hein? J'aurais envie de te dire le B.
Non, c'est A, la Joconde du Nord. Parce qu'elle avait à peu près les mêmes... la toile à peu près la même dimension. L'allure de la fille sur la toile ressemble un peu...
L'angle,
c'est ça. Ça ressemblait
Un
petit peu à la Mona Lisa là, de Léonard de Vinci. Alors, on l'a surnommée la Joconde du Nord. Et en terminant, Henri-Julien-Félix Rousseau. Il est né en 1844. Il est décédé en septembre 1910. Lui, il était connu, ou en fait mieux connu sous ce surnom-là. Douanier Rousseau. Musicien Rousseau, docteur Rousseau ou ingrat Rousseau?
Il faut que j'aie une bonne réponse.
Excuse-moi, là, c'était trop...
Je vais y aller avec docteur Rousseau.
Non, c'est le douanier Rousseau.
Le douanier Rousseau.
Le douanier Rousseau. Puis sais-tu c'est quoi le pire?
Non.
C'est que la compagnie créole a fait une chanson sur le douanier Rousseau. Vive le douanier Rousseau. En 1983, t'es assez célèbre, là, le bonhomme, là. Ouais. Lui, il avait fait, dans une ancienne vie, avant de devenir un peintre célèbre, il avait été commis de deuxième classe, comme qui contrôlait l'entrée des boissons alcoolisées à Paris, si on veut. Et on l'a surnommé le douanier Rousseau à cause de ça, justement.
Mais excuse-toi pas, c'est correct.
Je voulais faire un quiz qui était un peu décalé avec les affaires de gâteaux, puis d'épices, puis des affaires comme ça, comme j'avais déjà fait, puis...
Non, mais c'est correct. Tu vois, tu viens d'ajouter un nouvel intérêt à ma corde d'arc.
C'est ça. Ouais. Tu t'es trouvé un nouveau violon d'ingres. Tu as maintenant la peinture comme passion.
Oui, bien, au moins, je dois parfaire ce département-là dans mon esprit un petit peu, ou y travailler dessus. Mais c'était très intéressant. J'ai bien aimé.
Alors, tu connais désormais d'autres peintres que Benjamin. Là.
Oui. Monsieur Moore a de très belles couleurs.
Et Monsieur Sicot.
Surtout son vert sauge.
Ben, merci beaucoup. Merci pour cette deuxième semaine d'émission de Peux contenir des infos. On va se retrouver la semaine prochaine. Puis là, je risque de me faire varloper. J'espère sincèrement que tu vas me varloper.
Je vais essayer. Mais en même temps, le but, c'est pas qu'on paraisse mal.
Non.
Mais je vais essayer d'avoir un quiz.
Prendre.
Peut-être te challenger.
Ben parfait, c'est ça. OK.
Good.
Parfait, merci.
Salut.